Une semaine passée avec les enfants, une semaine chaude, une semaine parfois très humide, trempée jusqu'aux os tellement il faisait chaud, du bon temps et surtout du temps passé à vivre ensemble, à apprendre à vivre ensemble, se trouver dans un même lieu sans forcément se connaître et en fait devoir vivre ensemble. L'accueil, le respect, le partage avec l'autre, celui qu'on n'a peut-être jamais vu et qu'on découvre et qui forcément est différent. Pourquoi cela nous semble si important? Parce que nous, les hommes et les femmes de ce siècle, nous recherchons des contacts. Nous avons en fait besoin de contacts. Il n'y a que voir tout ce qu'on invente comme moyen de se contacter et de discuter ensemble. Et parce que nous avons aussi souvent la fâcheuse tendance à voir chez l'autre ce qui à nos yeux n'est pas comme nous. C'est la première chose qu'on voit. Il a un gros nez, il n'est pas beau, il a des grands cheveux, il est tout petit, il est gros. On voit ces choses-là directement chez l'autre. Aussi, on est d'abord critique, souvent, ou juge, voire méprisant, avant même d'avoir pris contact, de connaître ou de savoir. Et le texte de la Bible, de la parole de Dieu, que nous allons lire et méditer ce matin, est une histoire racontée par Jésus lui-même, à un moment, juste à un moment, où il vient d'être critiqué, vivement critiqué. Vous savez pourquoi? Simplement parce qu'il était allé manger avec des gens qu'on n'appréciait pas beaucoup. C'était des douaniers. Désolé, mais c'est le texte qui en parle. Des collecteurs d'impôts. Une histoire sous la forme d'une parabole, une forme littéraire où Dieu, dans sa parole, enseigne une vérité importante en donnant un exemple de tous les jours qui était facilement compréhensible par les personnes de ce temps-là. C'est une histoire que nous avons partagée vendredi avec les enfants, et qui est illustré sur la fresque que vous avez pu voir en rentrant à droite. Ça sera en sortant à gauche si vous ne l'avez pas vu. Donc je lis ce texte qui va aussi s'afficher sur l'écran. Dans l'évangile de Luc, les versets 3 à 7 du chapitre 15. Jésus leur répondit par cette parabole. « Si l'un d'entre vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à s'égarer, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue? Ne la cherchera-t-il pas jusqu'à ce qu'il l'ait découverte? Et quand il l'a trouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener? Sitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Venez partager ma joie, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 gens de bien qui estiment n'avoir pas besoin de changer. Voilà le texte de ce jour.
Encore une histoire pour enfants. C'est quand même assez naïf.
Alors, ok. Peut-être cette histoire peut paraître naïve. Désuète, vieillotte, et d'un autre temps. On peut aussi la voir simplement comme une histoire à lire le soir pour les enfants, pour les endormir. Oui, on peut. Mais pourtant, cette histoire, elle est tirée de la Bible. Elle est tirée de la Bible, universellement reconnue comme étant la parole de Dieu. Parole de Dieu créateur adressée aux hommes et aux femmes de tous les temps. Une parole. Vous savez ce que c'est qu'une parole, tous ? Une parole, c'est quelque chose qu'on entend, qui nous est adressé donc spécifiquement, donc qu'on écoute. Alors, en étant au moins un peu attentif et en y portant la moindre attention, quelque attention, nous découvrirons comment un texte comme celui-ci nous interpelle, nous, citoyens du XXe siècle. Qu'est-ce qui nous intéresse au fond dans cette histoire? Qui est ce berger? Qui est cette brebis? Pourquoi est-ce qu'elle est perdue? Il l'a mal gardée? Est-ce que le berger est fâché? Qu'est-ce qu'il fait exactement pour elle? Quels sont finalement ses sentiments à son égard et quelles sont les conséquences, et pour le berger et pour la brebis? Mais au fond, puisque c'est la parole de Dieu adressée aux hommes, qu'est-ce que Dieu veut vraiment nous dire au travers de cette histoire? Évidemment, tiens, je vais faire un sondage. Combien y a de personnes qui sont bergers ici?
Donc, qui étaient, hein?
Non, mais attention, on parle d'un berger dans un troupeau de brebis, là. Pierre a 300 brebis, 300 brebis. Il y a une autre bergère au fond, là-bas. Vous voyez, il y a très peu de personnes par rapport à la société du temps où vivait le Christ. Il y a peu de personnes. Et cet exemple était particulièrement bien choisi parce qu'à l'époque, beaucoup étaient bergers. Si vous êtes un petit peu promené dans la montagne, vous avez souvent rencontré des immenses troupeaux de brebis avec un ou deux chiens et un seul berger. Et vous savez que les bergers, ils comptent tous les soirs toutes ces brebis. Qu'il y en ait 1000 ou 2000, il sait exactement s'il en manque une le soir. Un simple berger compte tous les jours ses brebis et sait laquelle manque à l'appel. Il part à sa recherche, la retrouve et la ramène dans la bergerie. Et bien sûr, il est content parce qu'il n'en a pas perdu. Alors pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qui nous intéresse et nous parle dans cette histoire? Et d'abord, qui est ce berger? Dans l'image qui nous est donnée ici, cette parabole, le berger, c'est le Christ, Jésus-Christ, Fils de Dieu, le même qu'on fête à Noël, dont on fête l'arrivée, ce petit enfant Jésus dans la crèche, et qui finalement, quelques 33 années plus tard, va vaincre la mort à la croix, ressuscité, comme nous le rappelle l'apôtre Jean dans ce texte, dans le livre de Jean, le chapitre 10, le verset 11, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Voilà la suite de l'image, voilà une autre image. « Je suis le bon berger ». Il y a donc cette image de Christ, Jésus-Christ, qui est le berger et de ses brebis. Mais si Christ est ici imagé comme le berger d'un simple troupeau de brebis, qui sont ces brebis? Eh bien, ces brebis sont les hommes et les femmes que Dieu, dans son amour, dans sa grâce, veut avoir auprès de lui et qu'il appellera ses enfants. Des hommes et des femmes de tous les jours, comme chacun de nous, qui, depuis la chute, au temps d'Adam et d'Ève, ont été coupés de la relation avec Dieu. La relation avec Dieu était coupée à ce moment-là. Ont été coupés de la relation avec Dieu, le Créateur, et qui, par le sacrifice de Jésus, le bon berger, ce bon berger, ce sacrifice sur la croix, vont pouvoir renouer une relation avec leur Père, avec leur Dieu Créateur. Ainsi, nous pouvons déjà entrevoir que cette brebis, qui est perdue ici, que le berger va chercher, elle est en fait égarée, et on peut le comprendre quand on voit ces immenses troupeaux dans la montagne. Cette bergère, elle représente l'être humain, créature de Dieu, égarée et qui ne sait plus justement où est ce Dieu, où est ce Christ, où est le berger de son troupeau. Tant d'hommes et de femmes dans notre société ont perdu tout repère, n'ont plus de repère du bon, du mauvais, du juste, du faux, de la lumière, des ténèbres. Chacun essaye de marcher comme il peut. Cette brebis, nous les hommes et les femmes du XXe siècle, nous avons perdu cette relation avec Dieu. Cette brebis est privée de son berger, comme les hommes et les femmes sont privés de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne le voient pas, parce qu'ils ne le voient plus. En fait, cette séparation d'avec Dieu, c'est ce que la Bible appelle le péché, simplement. Le fait de ne pas avoir ou de ne plus avoir de relation avec le Dieu de la vie. Et c'est pour cela que dans notre histoire, le berger part à la recherche de la brebis. Mais vous avez vu, c'est pas pour lui reprocher quoi que ce soit, c'est pas pour la punir. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a retrouvé sa brebis? Pas la même chose que Pierre aurait voulu faire si son fils n'avait pas retrouvé ses lunettes. Non, pas du tout. Pas du tout. Il s'est réjoui. Il l'a pris sur ses épaules pour la porter. Imaginons que la, berger, la brebis l'avait peut-être drôlement cherchée, le berger aussi, avait couru dans tous les sens, avait bêlé je ne sais combien de temps. Mais peut-être elle était loin, on ne sait pas. Non, il veut simplement la ramener avec les autres à l'abri. La ramener dans cette relation du Créateur avec sa créature. Une relation d'amour, une relation de paix, une relation de vie. Dieu a envoyé Jésus, le berger, sur la terre pour chercher toutes les brebis égarées, les hommes et les femmes, par amour, parce qu'il est le Dieu créateur. C'est par cette grâce, et uniquement par cette grâce, venant de lui, et uniquement par lui, qu'il peut sauver leur vie en les gardant ici des prédateurs qui cherchaient à attaquer les brebis. Et dans notre monde, en les ramenant à lui pour leur éviter les écueils d'une société qui justement rejette cette notion de Dieu. Qu'est-ce que le berger a fait exactement avec la brebis? Il l'a cherchée. Vous avez vu qu'il est noté, il la cherche jusqu'à ce qu'il la trouve. Et il la trouve. Et il l'a trouvée. Puis il la porte dans ses bras et la ramène finalement en sécurité dans la bergerie avec les autres brebis qui étaient déjà à l'abri. C'est une histoire simple, mais contrairement à ce que vous avez imaginé, pas du tout simpliste, pas du tout simpliste. C'est simplement le plan de salut de Dieu pour tous les hommes et les femmes qui sont éloignés de lui, qui sont perdus, comme perdus, désespérés, on a dit ce matin, loin du Dieu créateur, loin du Père. Ce sont les sentiments du berger à l'égard de cette brebis. C'est le sentiment de Dieu à l'égard des hommes et des femmes qui sont privés de cette grâce, parce qu'ils n'ont plus de relation avec lui, parce qu'ils ne le connaissent plus, parce qu'ils ne le reconnaissent plus. C'est pour cela que le berger est parti à la recherche et que finalement, lorsqu'il l'a retrouvé, il l'a ramené sur son dos, rempli de bonheur, et qu'il a voulu partager cette joie avec les personnes de son entourage. La fin de notre texte, vous avez vu ce qu'il dit? Je vous assure, c'est Jésus qui parle, je vous assure qu'il y a, de même dans le ciel, il y aura plus de joie pour un seul pécheur, une brebis perdue, qui change de vie, donc qui va revenir à l'abri dans la bergerie, que pour 99 autres gens de bien qui estiment ne pas avoir besoin de changer. La joie dans le ciel. Le ciel, c'est l'image de l'endroit où est Dieu. La joie dans le ciel pour une seule brebis retrouvée. Pour une seule brebis retrouvée. Ce que Dieu veut réellement nous dire au travers de ce texte et avec cette histoire, c'est que nous, hommes et femmes du XXe siècle, du XXIe siècle, ça passe vite, hein, nous nous sommes égarés loin de lui. Dans un monde qui, d'un côté, a totalement sacralisé la religion et qui, d'un autre côté, a totalement ou presque éradiqué la notion de Dieu et de foi en lui. Aujourd'hui, croire en Dieu, le reconnaître comme notre Créateur, avoir foi en Jésus-Christ, son Fils, envoyé sur terre pour nous permettre de renouer cette relation avec lui, et connaître la vie qu'il propose, n'est-ce pas une idée que la société, notre société, a d'abord laissée de côté, puis pratiquement totalement oubliée, pour finir par la rejeter et la combattre dans une laïcité qui est devenue elle-même quasi une vraie religion, mais une religion qui ne croit d'ailleurs en rien d'autre que de refuser de croire en Dieu. Et pour nous, hommes et femmes de ce siècle, comme nous le rappelle ce texte, qui n'estiment pas vraiment avoir besoin de quoi que ce soit et se suffisent à eux-mêmes, chers amis, que vous le vouliez ou non, cette parabole est bel et bien un appel clair adressé aux hommes et aux femmes de tous les temps, mais d'aujourd'hui aussi, où Dieu nous dit personnellement, « Tu es loin de moi, Et il nous montre du doigt, « Tu es loin de moi, tu es comme cette brebis perdue, mais je te chercherai jusqu'à ce que je te retrouve. » Ta vie sur terre n'est qu'un passage, un jour tu mourras. Mais moi, je te veux auprès de moi pour une vie qui n'aura pas de fin. Alors ce texte prend une toute autre allure qu'une simple histoire pour endormir les enfants le soir, une petite histoire à l'eau de rose, et le temps est en diminue jusqu'à ce que les enfants dorment. Non, elle est au contraire là pour nous réveiller, totalement, de notre léthargie et de nous poser de vraies questions, d'où je viens et où je vais. Nous croyons que dans cette vision que Dieu donne pour ses créatures, l'Église, c'est-à-dire l'ensemble des brebis que Dieu a retrouvées, qu'il a rachetées par le sacrifice de Jésus-Christ sur une croix semblable à celle-là, l'Église est justement un lieu de liberté privilégiée, grand ouvert, où Dieu permet encore à l'homme qu'il cherche de le trouver et de le rencontrer. Vous avez vu, nous ne parlons pas ici de religion du tout, mais de relation intime, de foi en Jésus-Christ. Dieu nous aime. Et ce qu'il souhaite pour chacun de nous, c'est nous rencontrer personnellement. Alors j'ai un peu envie de dire, pour terminer, la balle est maintenant de notre côté, à nous les hommes, de votre côté, à vous les hommes et les femmes. En laissant ce texte, vous interpeller. Amen.
Bon, ok, c'est bien gentil tout ça, mais aujourd'hui on se débrouille bien tout seul. Et puis, on peut bien se débrouiller pour nos propres forces. Et est-ce qu'aujourd'hui, Dieu a encore besoin et encore à la recherche de personnes?
Bah ouais, par appétit. Je t'explique parce que... En fait, je vais te donner un exemple. Moi, il y a des années en arrière, j'ai traîné avec des gens qui n'étaient pas fréquentables, j'habitais dans une cité. Et la seule religion, entre guillemets, qu'on avait, c'était d'aller brûler des bagnoles. Voilà, donc c'est pas cool, tout ça. J'en avais marre au bout d'un moment, je voulais quand même changer, puis je savais que c'était pas bien ce que je faisais, mais c'était notre délire, voilà, c'est comme ça. Et puis au fond de moi, Dieu m'a dit, pars d'ici, plaque tout, et puis va ailleurs, va loin de tout ça. J'ai atterri dans la région, et puis après Dieu a fait le reste. Il m'a mis des gens sur mon chemin, et puis j'ai atterri à l'église. J'ai découvert des personnes exceptionnelles, et puis maintenant je suis là, et... Je viens à l'église le plus souvent possible et puis je suis fier d'en être là aujourd'hui. Donc je pense que je ne suis pas le seul à être dans ce cas. Puis je vois qu'il y a marqué là-bas que dans le ciel, à chaque fois, c'est la fête quand il y en a un qui change de vie, un pécheur comme je l'ai été. Je pense que c'est la fête tous les jours parce que ça arrive tous les jours des pécheurs qui changent de vie.
Ce que veut nous dire ce texte et ce que nous a dit Sandy dans son témoignage, c'est qu'aujourd'hui, ce message est d'actualité. Ce n'est pas un vieux texte perdu, plein de poussière non plus. C'est un texte qui parle aux hommes et aux femmes de ce siècle et qui dit à chacun. Je dis bien, il n'y a pas une personne dans cette salle qui ne peut pas se sentir concernée. Il dit à chacun, Dieu te cherche, Dieu te recherche, qui que tu sois, quelle que soit ta condition. Ton passé, ton parcours, tes galères, toute ta vie, toutes les casseroles que tu traînes derrière toi. Il te cherche. Il te cherche parce que tu as de la valeur à tes yeux, à ses yeux. Parce qu'il t'aime, comme toute créature. Parce qu'il veut te sauver de ce monde qui le rejette. Le salut en Jésus-Christ, grâce de Dieu faite aux hommes, est pour tous. Pour chacun, ça veut dire. C'est pas pour tous, ouais c'est bon, c'est pour tous. Non, c'est pour chacun, c'est à chacun qu'il interpelle. Même et surtout pour celui, comme nous dit le texte, qui estime, surtout pour celui-là, qui estime ne pas avoir besoin de changer. C'est l'appel, l'interpellation que Dieu nous adresse à tous. Elle est synonyme pour nous, vous l'avez vu ce matin, elle est synonyme pour nous de joie et de vie. C'est le projet ambitieux que Dieu a pour notre monde. C'est pour cela aussi que nous avons de la joie à nous retrouver jour après jour, dimanche après dimanche, ensemble, dans l'église ici, mais dans d'autres églises ici, pour vivre et partager notre foi, vivre et partager son amour sous le regard du bon berger. Et nous sommes sous son regard. Et je terminerai avec deux lignes deux lignes qui sont importantes dans la parole de Dieu. Deux lignes tirées d'une lettre que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Rome, et il leur dit, en parlant de ce changement de vie, il lui dit, ces chrétiens lui disent, mais comment faire? Et le texte de l'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, au verset 9 du chapitre 10, nous dit, si tu confesses de ta bouche, c'est-à-dire si tu dis de ta bouche, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Sauvé. Amen. Je vous invite à un tout petit temps de silence et de réflexion. Notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu nous as donné ta parole, ce livre dans lequel est résumée ta parole que tu as dictée aux hommes. Et avec cette parole, tu nous parles, et tu nous parles jour après jour, depuis des générations, depuis des siècles, et encore aujourd'hui tu parles. Encore aujourd'hui tu recherches ceux qui sont perdus. Encore aujourd'hui tu nous interpelles et tu nous appelles. Seigneur, aide-nous à ouvrir nos oreilles, à les nettoyer si besoin, mais à entendre et à écouter ce que tu nous dis, à comprendre que nous avons besoin de toi. Et nous voulons te remercier parce que tu nous accueilles, tels que nous sommes, sur n'importe quel chemin. Merci Seigneur pour cette grâce, merci parce que nous n'avons d'autre chose à faire que de te dire « Oui, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort et que tu es ressuscité pour me donner la vie. Gloire à ton nom Seigneur. Amen. » Là, je laisse la place à Philippe pour les annonces.
Voici venu le moment des annonces. Alors après une semaine de club d'été, la première annonce, ben voilà, c'est les objets trouvés lorsqu'on fait les nettoyages. Il y en a encore plein là-bas ? Voilà. Alors, on va les mettre sur la table ici, et puis que chacun qui a perdu quelque chose vienne le reprendre. Après le culte, on a un apéritif. Alors chacun est invité à rester un petit peu pour partager un moment convivial, un moment sympa. Donc l'apéritif sera dehors, dans le gazon, sous les arbres. Donc prenez un temps pour rester, pour partager, pour faire connaissance. Mardi après-midi, on a l'étude biblique pour les aînés à 14h30. Oui.
Excusez-moi. En fait, la messe, ça ne se limite pas le dimanche matin, il y a aussi d'autres activités qui rentrent en ligne de compte.
Effectivement, il y a aussi d'autres activités.
D'accord, bon, ok.
Juste pour répondre à ta question, Mathieu, on a vu ce matin que Dieu aime chaque personne, Dieu aime chacun. Et en plus de nous trouver, on a vu ce matin que Dieu nous trouve de la même façon que le berger trouve la brebis perdue. En plus de nous trouver, Dieu nous invite à vivre une relation avec lui. Et en fait, la vie avec Dieu, ça commence par le fait de le rencontrer, par le fait de se laisser trouver par lui, mais ça continue ensuite. Le fait de se laisser trouver par lui, ce n'est que le début. Dieu nous invite, en plus de nous trouver, il nous invite à vivre une relation avec lui. Relation personnelle, bien sûr, mais Dieu nous invite aussi à vivre avec lui une relation en groupe, une relation avec d'autres personnes dans le cadre de l'Église. Il y a donc dans l'Église, effectivement, des activités pour chacun, qu'il soit jeune ou plus âgé, qu'il soit homme ou femme. Cette semaine, il y a l'étude biblique pour les aînés, c'est-à-dire un temps convivial de partage pour les retraités qui se retrouvent environ une fois par mois. En période scolaire, il y a pendant le culte les écoles du dimanche, pour les enfants qui, en fonction de leur âge, ont un partage basé sur la Bible. Les adolescents se retrouvent pour une activité environ deux fois par mois. Les jeunes se retrouvent les samedis soirs, toutes les semaines. Le Femme Club, ça c'est spécial pour les femmes, se réunit à quinzaine, les lundis après-midi. La chorale se retrouve aussi à quinzaine. Il y a aussi, une fois par mois, une étude biblique et deux réunions de prière. Il y a aussi des activités particulières, comme le culte, et la journée dans un chalet d'alpage qui sera cette année le 31 août. Retenez bien, le 31 août, il n'y aura pas de culte ici, ce sera fermé. On va passer la journée dans un chalet d'alpage. ou bien le week-end des 12 et 13 septembre que nous passerons à la montagne, au col des Mosses. Comme vous le voyez, nous proposons des activités pour chacun, et elles ont un point commun, c'est de permettre à chacun de faire grandir sa relation personnelle avec son Dieu. Donc pour cette semaine, mardi 21, étude biblique des aînés à 14h30, et dimanche prochain, le culte à 10h30. Maintenant, juste quelques nouvelles de Didier. Didier a eu un rendez-vous positif cette semaine suite à l'enlèvement de la dent qui a eu lieu il y a un mois. Et c'est bien de savoir que les analyses aussi étaient positives. Donc on se réjouit, on est content, soulagé aussi avec Didier et Loredane par cette bonne nouvelle. On vous invite aussi chaque semaine à prier pour un pays dans lequel les chrétiens sont persécutés. Cette semaine, on vous invite à prier pour la Chine. La Chine connaît en effet une recrudescence de la persécution. Il y a donc en Chine deux églises officielles, l'église protestante et l'église catholique. Elles-mêmes sont plus inquiétées, mais ce sont surtout les églises clandestines, les églises qui ne sont pas reconnues, les églises de maison qui connaissent plus de difficultés. Le gouvernement craint l'expansion de toutes les minorités religieuses aussi. Alors en Chine, il y a plus de 70 millions de chrétiens pour 1,35 milliard d'habitants. Ça fait quand même presque 7% et c'est donc une proportion assez importante de chrétiens. Avant la bénédiction, on vous invite à partager encore un chant, c'est juste. Je vous invite à rester debout et je vais lire encore un verset qui se trouve dans les psaumes. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen.